Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le petit livret liturgique qui va nous accompagner tout au long de ce culte. Réjouissons-nous au Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table de réconciliation avec mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Alors c'est ce psaume 23 que je vous propose de chanter maintenant dans le psautier français, les trois strophes de ce psaume 23.
Thank you.
Alors un grand bienvenue dans cette maison, frères et sœurs, que chacun se sente ici vraiment comme chez lui, sans condition, pour ce temps où nous voulons nous rassembler pour nous ouvrir à la présence de Dieu et lui faire monter notre louange. Alors c'est une joie toute particulière que nous, pour nous d'accueillir ce matin Estelle Isoard qui a demandé à recevoir le baptême et à dire sa foi parmi nous ce matin. Donc vraiment c'est un cadeau qu'elle nous fait avant Noël. Voici le témoignage de l'apôtre Jean. Jésus nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici ce que je vous dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors face à cet idéal infini de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu, nous pouvons reconnaître que nous avons une marge de progression. C'est ce que nous pouvons faire en nous unissant du cœur, de la foi, à cette prière de David. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, et il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais que chacun reçoive vraiment l'assurance de la bienveillance de Dieu irréductible à son égard. Que chacun reçoive de naître et de grandir par le Créateur de la vie. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Estelle, vous demandez le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu vous donne en Jésus-Christ. Et vous manifestez ainsi le désir de devenir membre de l'Église chrétienne et plus particulièrement membre de l'Église protestante, membre de l'Oratoire du Louvre. Ce baptême, c'est le signe du salut que Dieu accorde en Jésus-Christ, de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier Estelle. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous et rien ne vous privera de cet amour dans votre existence. Ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les forces difficiles qu'il peut y avoir, qui peuvent se manifester en ce monde, ni les grandes joies que nous pouvons traverser, tout peut vous rapprocher, au contraire, de l'amour de Dieu. Dans la liberté que Dieu nous donne d'entrer ou de ne pas entrer volontairement dans son alliance, aujourd'hui, Estelle, vous répondez à cet amour de Dieu en demandant le signe du baptême. À ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée, ma fille chérie », vous lui répondez dans votre cœur déjà depuis quelque temps et aujourd'hui au milieu de nous « Tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux ». Alors depuis toujours, en fait, vous avez eu la foi, m'avez-vous dit, vous avez senti qu'il y avait quelque chose. Et depuis quelques années maintenant, vous vous êtes intéressé aux religions, vous avez cherché. Et puis en particulier, vous vous avez creusé dans les différentes branches du christianisme. Et puis, les choses s'affinant, depuis 2 ans, vous avez plutôt choisi le protestantisme. Alors vous avez essayé différentes paroisses, et puis finalement, vous voici à l'oratoire, et c'est pour nous une joie, c'est pour nous un cadeau. Alors vous vous êtes préparé dans l'étude, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, dans la prière, à recevoir ce baptême. Tout ce chemin parcouru jusqu'aujourd'hui déjà nous remplit de joie et vous a rendu plus vivante, plus approfondie votre existence, mais Dieu vous accompagnera tout au long de ce chemin, il est encore largement ouvert devant vous, bien sûr. Et pour que donc Dieu vous accompagne dans ce chemin, nous prions Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie sur Estelle. Accueille-la, accueille celle que le baptême va marquer du signe de ta grâce pour qu'elle entre dans ton alliance et qu'avec le Christ, elle reçoive chaque jour une dimension nouvelle. Estelle, désormais, ce baptême vous redira que vous n'êtes pas esselée sur le chemin de la vie. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, en qui vous est offerte la joie d'une vie créatrice, la joie d'une vie qui est donc approfondie, qui s'élève, et d'un cheminement confiant avec la présence du Christ qui vous accompagne sur votre route. Et puis à nous tous, frères et sœurs, le baptême d'Estelle et sa profession de foi, eh bien nous rappelle cette grâce qu'il nous fait de nous appeler, de nous considérer comme son enfant. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous entourons Estelle, et puis avec elle, eh bien, nous renouvelons notre profession de foi. Alors Estelle, je vous propose de vous approcher donc de ce baptistère. Estelle, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Estelle, oui, que Dieu vous bénisse et vous garde sur la route qui est la vôtre, qu'il illumine votre témoignage en ce monde, chacune de vos paroles, de vos intentions, de vos projets et de vos actes. En réponse à cette grâce de Dieu, avec toute l'Église chrétienne, au-delà des différences d'institution et de confession de foi, est-ce que vous voulez confesser votre foi en Christ ?
Oui. Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est vrai que c'est la confession de foi qui rassemble vraiment tous les chrétiens. Mais il est bon de préciser, de creuser, de chercher ce qui est pour nous le cœur de notre théologie, de notre espérance en Dieu, de nos valeurs. Et c'est pourquoi vous avez préparé une confession de foi qui sera pour nous la confession de foi de notre communauté ce matin. Et donc je vous propose de vous unir pour... de vous lever pour vous unir à cette déclaration de foi d'Estelle parmi nous ce matin.
Je crois en Dieu notre Père, Créateur, source de toute vie. Je crois à son amour inconditionnel et universel. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je crois en sa volonté d'unir les hommes dans la paix, tous frères, enfants de Dieu. Je crois en l'Esprit Saint, souffle bienveillant de Dieu, agissant dans nos cœurs pour nous faire grandir dans la confiance et la foi. Je crois que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Je crois enfin que toute personne égarée peut trouver la lumière.
Un grand merci, Estelle. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors nous proposons des engagements, mais c'est plus pour marquer que le baptême, la profession de foi, est le début d'un cheminement. Et donc oui, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur, et c'est vraiment chercher à le suivre, car il est aussi notre Seigneur. Estelle, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer à vivre en chrétienne, en aimant Dieu de tout votre être, en l'aimant avec intelligence, comme nous le propose Jésus-Christ, et puis en aimant eh bien, votre prochain comme vous-même?
Oui, que Dieu vous soit en aide.
Alors vous pouvez compter sur son aide, car il est fidèle, il ne vous lâchera pas. Alors il y a aussi des outils, effectivement, qui sont proposés pour continuer à nourrir ce cheminement. Il y a bien sûr la lecture de la Bible et la prière personnelle qui sont les éléments fondamentaux de notre religion intime, privée. Il y a aussi eh bien, le culte et toutes les activités que propose l'Église. Et puis la Sainte Cène, bien sûr, la communion auquel vous avez bien sûr votre place, mais comme toute personne qui le désire en fait. Estelle, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Eh bien, nous vous recevons avec grande joie comme membre de cette immense famille des chrétiennes et des chrétiens. Et nous vous recevons avec grande joie dans cette communauté, donc, qu'est l'Oratoire du Louvre en particulier. Et que le Saint-Esprit eh bien, affermisse jour après jour votre foi, votre réflexion, votre prière, vos projets, que le Saint-Esprit vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Alors vous avez accepté de dire quelques petits mots sur votre cheminement. Alors c'est pas pour chanter vos propres louanges, mais c'est vrai que nous sommes touchés de voir des personnes qui ont pu venant en dehors de qui ne sont pas tombés dedans comme ils sont quand ils étaient petits dans la foi chrétienne, ou même étant tombés dedans petits, ont pu s'approprier cette foi, ce cheminement. Et donc ça nous intéresse de savoir un peu voilà, ce qui a pu vous faire avancer, ce qui a pu vous donner l'énergie de se venir ce matin et de dire votre foi parmi nous. Parce que peut-être que ça peut nous donner aussi des idées, l'envie, la force eh bien, d'avancer sur notre chemin. Donc merci Estelle d'avoir ce courage de nous offrir ça.
Donc depuis très longtemps, j'ai la foi sans pouvoir la nommer. Ce sentiment fort que tu existes, que tu aimes, connais, gardes, pardonnes et accompagnes en toute détresse comme en toute joie chacun d'entre nous. Mais il m'aura fallu du temps, de l'énergie, de multiples échanges avec les croyants et la rencontre de témoins forts pour qu'enfin je me rende perméable à ta grâce. pour qu'enfin je sois convaincue que depuis toujours, j'ai une place parmi tes enfants. Je suis heureuse de recevoir le baptême, signe de ton amour, et c'est avec joie que j'intègre la famille chrétienne protestante. Aujourd'hui, je monte sur la première marche d'un escalier que je ne vois pas en entier, en espérant que tu resteras à mes côtés tout au long de cette ascension, vers une qualité d'être, pour moi-même et pour mon prochain. Merci.
Un grand merci, Estelle, pour ces paroles, pour ce témoignage. Nous prions Dieu pour vous. Ô notre Dieu, grand merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier pour cette dynamique d'amour, d'évolution et de vie que tu nous offres sans condition. Dynamique qui nous anime et qui nous donne une paix vivante. Merci pour ta parole qui nous guide vers toi et qui a guidé Estelle vers toi et qui l'a envoyée parmi les autres comme témoin de ton amour et comme source de réconfort pour d'autres. Notre Père, nous te remercions vraiment pour ce qui l'anime, pour cet amour, cette intelligence de sa foi. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est la joie du ciel pour ce moment de confiance en toi et ce moment de partage avec les autres de ce qui est l'essentiel. Fortifie tout particulièrement sa foi et fais que son témoignage puisse vraiment porter du fruit, qu'il soit non simplement donné, offert gratuitement, mais qu'il soit reçu comme une graine qui tombe dans une bonne terre et que dans son entourage, eh bien, son rayonnement, le rayonnement d'Estelle, puisse être une rosée rafraîchissante, puisse être un souffle vivifiant pour les autres. Oui, nous te faisons confiance, ô notre Dieu, ta joie sera notre force. Amen.
En ce moment, l'esprit de Noël est un peu partout, dans les villes et dans les campagnes. Alors on voit des crèches dans le guichet d'une gare, des crèches évoquant donc la naissance de Jésus au rond-point des villages. On entend « Il est né, le divin enfant » comme musique d'ambiance dans les supermarchés. Et cette ambiance magique de Noël va conduire bien des personnes habituellement non pratiquantes à aller, pour une fois, au culte de Noël, ou bien penser à Dieu. Et c'est une chance pour eux, car un miracle peut se produire sur ce chemin. Comme dans cette histoire racontée dans l'Évangile, où des personnes sont guéries alors qu'elles étaient en chemin pour accomplir un rite religieux. Alors je vous propose de nous demander, à partir de ce texte, ce que Jésus pensait de la pratique des actes religieux. Alors c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 21. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. » On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là ». Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au milieu de vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour laisser résonner ces textes en nous-mêmes, eh bien de chanter le Cantique de Marie, numéro donc 88 dans notre petit recueil Louanges et prières, le Magnificat. Alors je propose les strophes 1, 2 et 3, les trois premières strophes du Cantique de Marie. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta volonté bonne. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, mais au contraire unis en nous tout ce qui est bon avec ta parole. Et fais que nous puissions, grâce à ton Esprit Saint, trouver ta parole dans la méditation de ces Écritures anciennes. Fais que cette parole que tu as pour chacune et chacun d'entre nous puisse vraiment être entendue, reçue, vécue, aimée. Contre toute attente, Jésus invite les dits lépreux à accomplir un acte religieux. C'est pourtant pas tellement le genre de Jésus. Ces 10 hommes sont unis par une commune détresse, viennent vers lui et l'appellent à l'aide. Jésus ne fait pas un peu de boue avec de la salive et de la poussière du sol comme d'autres fois. Il n'impose pas les mains, il ne bénit pas les lépreux, il ne leur parle pas du pardon de Dieu comme il le fait souvent, ce qui pourrait leur faire prendre conscience de leur dignité, bien qu'ils sont malades. Jésus ne leur dit qu'une seule chose, d'aller se montrer au sacrificateur. Il leur dit d'aller accomplir un de ces actes de pure religion religieuse dont le livre du Lévitique est friand. Nous avons fait le pari, mon collègue et moi-même, d'arriver à prêcher un jour sur le Lévitique. C'est pas donné, j'ai même pas osé vous lire le texte dont parle ici Jésus, parce que c'est un texte avec des poulets, des moutons sacrifiés, avec de multiples aspersions, un peu d'huile à gauche, un peu de sang mélangé à de l'eau, avec de la poudre d'insectes écrasée et puis de l'hysope, le tout prenant 8 bons jours et certainement pas mal d'argent pour le pauvre appelé à pratiquer ce rite. Alors c'est surréaliste que Jésus envoie accomplir ses actes religieux quand on connaît par ailleurs la façon d'être de Jésus. Il a été très critiqué et même exécuté finalement de ne pas bien respecter le sabbat qui est un des commandements majeurs bien sûr de la religion juive. Jésus les envoie pourtant accomplir un rite religieux et ça marche. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Il y a donc là, la purification se déclenche au milieu de leur cheminement, nous dit le texte. Alors est-ce que Jésus soutiendrait l'importance essentielle des rites religieux ? Alors c'est un peu plus fin et compliqué que cela, et il n'est pas possible de répondre par un simple oui et non, car la religion est complexe et déclinée tout au cours de ce texte. La religion ne se limite pas aux rites dans le temple. Et puis en plus, les lépreux ne sont pas guéris par le rite dans le temple. Ils sont guéris avant même le rite, dans le cheminement pour aller vers le rite. Et puis ensuite, l'histoire continue après cela, en particulier avec cet homme qui, parmi les 10, bon, est guéri, mais ne va même pas jusqu'au sacrificateur, retourne vers Jésus et connaît alors un autre cheminement. Et c'est à lui qu'il est annoncé le salut. Un salut peut-être que n'ont pas reçu les 9 autres qui sont restés bien sagement à accomplir le rite que Jésus leur avait dit de faire. Rite qui permettait aux lépreux guéris de réintégrer la société. Alors reprenons au début la marche de ces 10 lépreux. La démarche de ces hommes évoque déjà un des très intéressants, je crois, bénéfices de la religion. Ils se sont rassemblés. Liés par une même condition, par une même recherche, malgré leurs différences normalement insurmontables, les Juifs et les Samaritains ne se fréquentant pas. Et puis ils vont vers Jésus qu'ils appellent maître. Ce terme d'épistatès est toujours dans l'Évangile le titre qu'emploie un disciple, un apôtre, un proche disciple pour s'adresser à son maître, pour lui demander des conseils ou pour lui demander de l'aide. Il y a de l'humilité, finalement, dans cette relation. Il y a de la confiance, il y a de la subordination, finalement. Et effectivement, les 10 hommes, déjà le chiffre 10, évoque l'idée d'une action, d'une charte, vont faire sans hésiter ce que Jésus leur propose de faire, aussi surprenant soit-il, de les envoyer aller faire ce rite avec les poulets et tout ça. Nous avons ici, je crois, une dimension intéressante de la religion. Comme ces 10 hommes, nous sommes réunis ce matin dans une commune recherche, une espérance, une certaine confiance dans un maître que nous avons choisi. Et la religion a cette capacité fort rare, je crois, de rassembler des personnes qui sont normalement étrangères les unes aux autres, de milieux sociaux différents. C'est très rare qu'un patron fasse une activité commune avec son employé, le moins élevé, avec un chômeur, avec quelqu'un qui est dans la rue, avec un enfant. Personne normalement qui ne se croise pas, d'origine différente, de culture différente. Des protestants depuis toujours, des catholiques, des personnes qui viennent d'autres milieux chrétiens ou du bouddhisme, de l'islam ou de l'athéisme. La religion crée du lien entre nous, un lien fort par cette démarche et cette confiance commune. C'est la démarche qui nous unit finalement, et c'est très précieux. Car dans n'importe quelle société humaine, il peut arriver très vite d'être comme un lépreux dans la société antique, c'est-à-dire le vilain petit canard de la fable, isolé dans sa propre famille, dans son travail, ou parce que sans travail, ou dans l'anonymat des grandes villes, ou dans le désert des campagnes, ou loin de son pays, ou isolé par la dépression, ou que sais-je, de tant de façons d'être le lépreux de l'histoire. Eh bien, la religion crée du lien social. Elle nous apprend que non, nous ne sommes pas pestiférés aux yeux de Dieu. Alors c'est cela que gagneront les neufs, qui resteront sagement à accomplir le rite. Ils seront réintégrés, et c'est déjà immense. Et puis il est bon d'avoir choisi d'être disciple d'un maître comme Jésus. Franchement, il y a pire que cette incroyablement belle et puissante théologie d'un Dieu qui aime jusqu'à ses ennemis. Sa philosophie de Jésus, c'est celle de l'infinie dignité de chaque personne et de chaque journée de notre existence. Et puis son invitation à vivre de la grâce et de la gratitude. Son éthique de la responsabilité et du service de l'autre et mille autres choses qui méritent effectivement que Jésus soit le maître et que nous soyons son disciple. Alors les dix lépreux, ils ont bien saisi, je crois, la philosophie du Christ quand il s'adresse à lui au nom de la seule compassion. C'est-à-dire, ils ont saisi que l'essentiel, c'est la grâce. Parce que la lèpre était considérée à l'époque comme une punition pour leur péché. Ils se sentent coupables, ils se sentent indignes, ils n'ont rien à offrir, mais ils peuvent demander quand même, puisque Jésus incarne le pardon, le service de l'autre, sans condition. Alors, en conjuguant la force du rassemblement de personnes diverses et celle d'un maître franchement excellent, Jésus, nous avons dans le christianisme, je crois, une religion qui peut vraiment mettre en route d'une belle façon. Mais Jésus les envoie au rite. Il y a donc quelque chose qui manque à ce que je viens de dire pour parler de la religion. Alors qu'est-ce que rajoute le rite ? C'est la dimension de la transcendance, du mystère, pourrait-on dire. La religion ne se résume pas à créer du lien social et à nous permettre d'élever notre philosophie et notre éthique. L'évangile, nous l'avons entendu dans le texte lu ce matin, c'est d'abord la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'approche, qui est là même, qui est au milieu de nous et au-dedans de nous, nous dit Jésus-Christ ici. Alors c'est vrai qu'on peut tirer une leçon de vie de cet épisode de la vie de Jésus, par exemple, avec l'importance de la justification gratuite, du pardon, l'importance de la gratitude aussi, l'importance d'une parole extérieure qui vient restaurer le sentiment que nous pouvons avoir ou perdre de notre dignité, et puis de cette compréhension que nous faisons partie de la communauté humaine. Mais une religion, c'est plus qu'un lien social et qu'un idéal, même un idéal magnifique et infini. Une religion, c'est une ouverture, une espérance vers une transcendance, une dimension d'un autre ordre, finalement, qui dépasse la philosophie, la réflexion, le lien social, la solidarité. Et c'est ce à quoi fait place le rite. Et c'est ce dont ont besoin ce jour-là, ces dix lépreux qui sont des disciples, donc bien sages. Mais c'est là que l'histoire racontée est très fine, car ce n'est pas le rite qui va guérir les dix lépreux, puisque c'est en chemin vers le rite qu'ils sont purifiés, qu'ils sont guéris. Alors, ce qui leur arrive est effectivement au-delà de la prise de conscience, au-delà de la philosophie ou du sentiment de leur propre dignité. Le texte nous dit « il arriva qu'ils furent purifiés ». Ça semble banal, mais le « il arriva », si vous voulez, « egeneto » sous-entend dans la Bible une action créatrice de Dieu qui injecte du neuf, de l'inattendu dans ce qui est normalement une chaîne de causes et de conséquences bien prévisibles. Et puis le passif de ce « ils furent purifiés », Ce passif, lui aussi, dans le contexte de la Bible, désigne Dieu comme l'acteur invisible de cette transformation qui arrive tandis qu'ils allaient, tandis qu'ils étaient en chemin, tandis qu'ils allaient se faire examiner par les sacrificateurs. Et donc l'important n'est pas le rite en lui-même, ni les sacrificateurs, mais il est dans le chemin vers le rite finalement. D'ailleurs, quand l'un des 10 fait demi-tour au milieu sans aller jusqu'au prêtre, Jésus ne le renverra pas accomplir plus tard le rite de réintégration dans la société auprès des sacrificateurs. Ce n'est plus la peine, finalement. S'il veut, peut-être, mais c'est plus l'essentiel. Parce que le chemin vers le rite est déjà une ouverture à cette transcendance. Le chemin en métro que vous avez fait pour venir ici, peut-être, est déjà une ouverture, creuse déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance de cette transcendance, de ce quelque chose de plus que vous n'auriez pas simplement en bouquinant de la théologie. D'ailleurs, le rite aussi peut être une ouverture à la transcendance. Si le métro n'a pas suffi, eh bien, vous avez bien fait de rester quand même ici, je crois, parce que le rite aussi, si vous voulez, continue à être une ouverture à la transcendance. Une ouverture qui intègre l'intelligence, mais qui s'inscrit aussi dans un mouvement du corps, dans le rassemblement des autres personnes, qui s'inscrit dans du temps et des moyens consacrés à ça. Et nous ne sommes pas de purs intellects. Nous sommes un être aussi de chair et de sang, un être social, et tout cela participe à l'ouverture, si vous voulez, de notre vie tout entière, à cette transcendance, à cette dynamique créatrice de Dieu. Alors la guérison des 10 lépreux sur le chemin permet à ce texte de dire à la fois l'intérêt finalement du rite religieux pour nous, mais en même temps de remettre le rite à sa place. Ce serait de la folie de penser une seconde que le rite est une action magique sur Dieu et convaincrait Dieu de nous apporter sa bénédiction ou sa grâce. C'est pour nous que le rite est utile, comme le dit Jésus, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La religion, ou plutôt, je crois, toute bonne religion, quelle qu'elle soit, ne doit pas se prétendre être un but en soi, mais plutôt un exercice au service de la personne humaine et de l'humanité. Une ouverture à cette transcendance de Dieu. Alors l'important, c'est le chemin vers le rite, image d'un cheminement intérieur qui s'ouvre à l'action de Dieu en nous et dans notre monde. Et les 10 lépreux seront donc purifiés. Ce texte ne nous dit pas qu'il vaut mieux aller faire un rite religieux plutôt que de prendre des antibiotiques pendant quelques mois pour guérir la lèpre. Ce n'est pas de cela dont parle le texte, mais il parle de l'ouverture de notre être dans toutes ses dimensions, à la puissance créatrice de Dieu, à son règne en nous et dans notre monde. Mais il pourrait sembler qu'à ce moment-là, du texte, eh bien ça y est, c'est gagné, il y a cette purification, il y a cet acte de Dieu en nous, eh bien non. Il reste encore 2 étapes dans le cheminement proposé par ce texte, et c'est pourquoi la religion dépasse encore le rite. La religion n'est pas simplement une philosophie, elle n'est pas seulement une recherche communautaire, elle n'est pas simplement non plus une ouverture à l'action de Dieu dans notre monde, dans notre vie, dans notre être. La religion est tout cela. Mais elle est aussi rendre gloire à Dieu, comme on le voit dans la suite du texte. Alors quelle importance? À quoi ça sert, a-t-on envie de poser comme question avec notre mentalité très pragmatique? À quoi ça sert de rendre gloire à Dieu? Alors d'abord, c'est sympa, c'est justice. Mais c'est plus que ça, si vous voulez. La gratitude nous permet de vivre quelque chose d'essentiel, je crois, et de très bienfaisant pour nous. La louange, par exemple, est un exercice d'initiation et parfois de rééducation à vivre dans la gratuité. Puisque nous avons déjà reçu ce que Dieu nous donne, la louange ne sert plus à rien, finalement. Eh bien oui, c'est gratuit. La gratitude nous permet de vivre cela. Par exemple, le propre de l'Évangile, c'est d'annoncer le pardon gratuit de Dieu, et c'est très libérant, effectivement. Nous sommes regardés par Dieu comme dignes de vivre et d'appeler son enfant bien-aimé. C'est tout cela, finalement, le cadeau qui est offert à Noël ou dans l'Évangile, à chaque page de l'Évangile. Par la gratitude, nous pouvons à notre tour donner quelque chose de gratuitement, finalement. Ce n'est pas pour payer a posteriori ce que Dieu nous a donné, mais il nous l'a donné de bon cœur, donc nous ne lui devons rien, finalement. Il s'est fait son propre plaisir en nous bénissant, en nous donnant la vie. Mais en rendant grâce à Dieu, finalement, ça permet de connaître nous-mêmes cette joie, eh bien, de donner gratuitement. Ça commence comme ça, je crois. Alors les 9 lépreux continuent probablement là où leur maître Jésus leur a dit d'aller, et qui leur a d'ailleurs plutôt réussi jusque-là, puisqu'ils sont purifiés en chemin. Ils en ont pour 8 bons jours de rite avec les poulets, et tout, comme je vous disais, pour rendre gloire à Dieu d'avoir été guéri, et puis pour se réjouir aussi du bonheur d'être disciple d'un si bon maître qui connaît les moyens de s'ouvrir à la puissance de Dieu, de résurrection, de guérison qu'est Dieu. Le 10e lépreux, il cumule le fait d'être infréquentable comme lépreux, traité comme contagieux physiquement et moralement, mais en plus il est infréquentable comme samaritain. Il y en a qui cumulent les malchances. Alors cet homme se rend compte qu'il y a en Jésus plus qu'un sage, plus qu'un théologien, qu'il y a un croyant et un philosophe, mais c'est même plus que ça. Il va à ses pieds rendre gloire à Dieu. Le texte dit même qu'il rend grâce à Jésus. Et ce verbe « eucharistein » est très fort, parce que ça sert ordinairement, ça ne sert que à dire « rendre grâce à Dieu lui-même ». Et donc, on voit que ce 10e homme, finalement, voit en Jésus plus qu'un sacrificateur. Il voit en Jésus l'Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu parmi nous. Il voit le salut de l'Éternel, ce qui traduit le nom même de Jésus. Et donc, le demi-tour de ce 10e homme pour rendre gloire à Dieu, non pas au temple, dans le rite, mais aux pieds de Jésus, c'est une conversion de sa relation à Jésus, non plus comme un maître, mais comme Christ, incarnant le salut de Dieu, la venue du royaume de Dieu, ici et maintenant, dans ce monde de poussière. Et c'est la bonne nouvelle que nous célébrons à Noël, celle de l'incarnation du salut de Dieu, de son royaume, en nous, au milieu de nous, en Jésus-Christ. C'est ce demi-tour, comme le fait remarquer Jésus, qui fait vraiment place à la gloire de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire en laissant place à l'action de Dieu dans notre vie, en reconnaissant le salut de Dieu là où il est, sans s'arrêter au rite. Alors le Samaritain, il est appelé par Jésus un étranger. Ce terme d'allogénèse est unique dans toute la Bible. Mais ce terme était très connu des contemporains de Jésus, car il était sur une inscription écrite en lettres énormes à l'entrée du temple de Jérusalem pour interdire aux étrangers l'accès au parvis du temple. D'ailleurs, cette pierre gravée est conservée au musée d'Istanbul, on l'a retrouvée je ne sais comment. Jésus attire notre attention sur le fait que la religion étant une ouverture à Dieu, qui par définition donc est le Dieu de tous, puisqu'il y a un seul Dieu. Toute religion qui interdit à certaines personnes de rendre gloire à Dieu n'est plus une maison de prière pour tous les peuples, comme l'Éternel le dit à Ésaïe, nous le demande, mais devient une caverne de voleurs, comme le dit Jésus au temple, volant la louange des hommes, volant à Dieu lui-même sa propre place. Et donc Dieu n'est pas dans le temple de Jérusalem, le temple n'est qu'un outil pour nous appeler à l'ouverture à Dieu et à la prière. Alors mieux vaut donc rendre gloire face contre terre au pied du Christ ? Eh bien non, là aussi ce n'est qu'une étape, celle qui nous permet d'entrer dans une relation vraiment personnelle avec Dieu, au-delà du rite, au-delà du groupe, au-delà des bougies et des croix. Jésus ne veut pas non plus, finalement, voler à Dieu sa place. Il dit à l'homme qui s'est jeté à ses pieds, « Non, non, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire que le véritable lieu où rendre gloire à Dieu, est-ce que c'est dans le rite religieux? ce n'était que pour un instant, finalement, comme une ouverture. Est-ce que le véritable lieu où rendre gloire à Dieu est au pied du Christ dans l'adoration ? Ben non plus, c'est là aussi que le temps d'une prière de louange, d'adoration, de gratitude et de foi, mais le véritable lieu, selon Jésus, pour rendre gloire à Dieu, le véritable lieu de la religion qui se poursuit donc, c'est ensuite dans une troisième étape finalement, en vivant notre vie librement. Le royaume de Dieu n'est ni au temple, ni au pied de Jésus, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il est en nous, au milieu de nos relations entre nous. Et Jésus insiste, ce n'est pas Dieu qui te ressuscite, ce n'est pas moi qui t'ai ressuscité, c'est toi-même qui t'es déjà mis debout. C'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Il y a eu une libération de cette force de résurrection qui est déjà au milieu de toi, en toi, par la présence de Dieu. La force du groupe, la sagesse du maître, l'ouverture du rite, la gratitude au pied du Christ, tout cela ne sont que des moyens, des étapes. Jésus n'est pas un maître qui garde l'esclave à ses pieds, mais qui libère l'esclave pour qu'il puisse faire son propre chemin. La puissance de résurrection est en toi, elle est en vous. Ta foi, à toi, t'a sauvé. Sauvé du néant, sauvé de l'esclavage, de la mauvaise religion, sauvé même de l'adoration perpétuelle du Christ. Notre cheminement nous mène alors au lieu de l'ultime adoration, le culte auquel Dieu prend vraiment plaisir à ce stade. C'est un culte en esprit et en vérité. C'est que nous vivions, c'est que nous avancions librement au milieu de nos frères et sœurs. Notre foi nous a sauvés. Amen. Et je vous propose de chanter donc dans le psautier français, le psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », les strophes 1, 2 et 5. pouvez prendre place. Alors, comme annonce pour ce dimanche, eh bien, il y a d'abord, à la suite de ce culte, il y a le baptême de Simon Graber, donc, qui va être baptisé. Son grand frère Nathan a déjà été baptisé ici il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, 4 ans peut-être, je ne sais plus. Et donc, c'est une joie de pouvoir entourer donc, cette famille. Si certains d'entre vous ont quelques minutes, ils peuvent rester pour les entourer et nous aider à chanter. Sinon, eh bien, le 24 au soir, la veillée de Noël, de 19h à 20h ici même, avec l'évangile, avec des chants, et puis avec, pour ceux qui le désirent, il y a un moment amical pour prolonger un petit peu eh bien, cette veillée de Noël. Alors le 24 au soir, à 11h30 du soir, il y a aussi une célébration œcuménique donc dans la Bourse du Commerce avec Noël au Hall qui offre donc une soirée de réveillon à des isolés du quartier. Et puis le 25 au matin, ici même à 10h30, eh bien, le culte de Noël avec une prédication à deux voix de James et de moi-même et puis une célébration de la scène. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Les diacres de notre Église vont recueillir ce que nous avons mis à part pour que l'Église puisse porter son témoignage et accompagner les personnes et les familles qui ont besoin d'accompagnement. Nous prions. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de merveilleux et de bon dans notre vie. Et puis pour toi, qui es et qui reste toujours fidèlement la source ultime du bien. C'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, avec ce qui nous peine, avec nos espoirs et puis avec nos projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, mais tu es la source toujours nouvelle de vie et nous te faisons confiance. Nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi, à ceux que tu nous confies. Et donc, nous pensons à ces personnes pour que nous arrivions à trouver la parole et le geste qui seront une ouverture pour eux, une espérance, une étincelle de vie. Veille sur ton Église pour son travail sur la terre, prends pitié de sa faiblesse, dissipe ses craintes, augmente son audace, son amour, sa foi, et inspire son témoignage jusqu'aux extrémités du monde et que personne ne soit oublié. Et puis unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service et dans la communion avec tous les chrétiens assemblés en ce dimanche de par le monde, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction que Dieu nous adresse au singulier, en particulier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun en ce monde. Ô Dieu Sauveur.